le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Cette semaine, c'est Éric Baird qui assure la chronique des Clés de l'écho. Bonjour Éric.
Bonjour.
Tu es maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux et cette semaine, tu voulais nous parler de l'inflation. Alors après 4 décennies de stabilité des prix, l'inflation, elle fait son retour. Peux-tu nous rappeler d'abord comment on la définit et par quoi elle est causée actuellement ?
Oui, alors l'inflation, elle est définie simplement comme la hausse du niveau général des prix au cours d'une période, donc l'année généralement. Elle représente en fait la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, hein, puisque si les prix augmentent de 2% dans l'année, quelque chose qu'on aura acheté 100 euros vaudra 102 euros à la fin de l'année. Donc c'est bien, s'il faut plus de monnaie pour acheter la même chose, c'est bien que la monnaie a perdu de son pouvoir d'achat. Mmh. Cette inflation est évaluée en France à partir de l'indice des prix à la consommation qui est calculé par l'INSEE. Alors sur les causes de l'inflation, les théories économiques en voient plusieurs. Il y a 3 grandes causes, en fait. Les économistes qu'on appelle monétaristes, hein, c'est ceux qui appellent à des politiques dites aujourd'hui néolibérales. Pour eux, l'inflation est causée par une trop grande émission de monnaie. Ils considèrent qu'une trop grande quantité de monnaie en circulation dans l'économie va conduire à une augmentation de la demande de biens et services qui, si elle ne s'accompagne pas d'une création de richesses additionnelles, c'est-à-dire si l'offre de biens et services n'augmente pas, eh bien tout ça va entraîner un accroissement des prix. Alors, tout de suite, il faut voir que cette approche, elle est très largement invalidée théoriquement, mais également par les faits. La deuxième cause possible, c'est que l'inflation peut être causée par un excès de demande relativement à l'offre disponible. Alors ça, c'est le cas lorsqu'on s'approche du plein emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que dans ces cas-là, bien au plein emploi, on a du mal à augmenter la production, donc l'offre a du mal à s'ajuster à la demande, d'où la hausse des prix. Mmh. La troisième raison, qui est celle qui va nous occuper et qui est importante dans la situation actuelle, c'est que l'inflation est causée par la hausse des coûts de production des entreprises. Alors ça peut être le cas par exemple quand la productivité du travail diminue, on est dans cette période-là, hein, réduction de une productivité du travail qui est plus faible, et ça conduit du coup à une hausse du coût salarial par unité, donc ça augmente les coûts de production des entreprises, ou alors lorsque les matières premières ou l'énergie de base se renchérissent, comme lors des chocs pétroliers des années 70, et dans ce cas-là, on va parler d'inflation importée. Là, la hausse des coûts va se répercuter dans le prix de revient, puis dans le prix de vente, d'où la hausse des prix. Pour résumer, aujourd'hui, l'inflation n'est ni d'origine monétaire, ni causée par la demande et donc par une surchauffe économique, mais elle est due à des chocs conjoncturels qui sont la hausse des prix de l'énergie, la rupture des chaînes d'approvisionnement, hein, qui engendre des pénuries dans certains secteurs. Donc elle est due à des chocs conjoncturels, mais aussi à des difficultés structurelles, cette fameuse baisse des gains de productivité. Mmh.
La Banque Centrale Européenne, elle tente d'endiguer l'inflation en augmentant ses taux d'intérêt. Actuellement, est-ce que c'est la bonne solution selon toi, Eric ?
Alors, non, parce que en augmentant ses taux d'intérêt, la BCE escompte qu'un renchérissement du coût du crédit va freiner la demande des ménages, mais aussi des entreprises, afin de l'adapter à une offre en berne, comme on l'a vu, hein, en raison de la hausse des prix de l'énergie et de la rupture des chaînes d'approvisionnement. C'est donc par le ralentissement économique, en quelque sorte, et le chômage, que la politique monétaire, celle qui est menée par la BCE dans la zone euro, mais aussi celle qui est menée aux États-Unis notamment et dans d'autres endroits, entend combattre l'inflation. Le Fonds monétaire international, dans ses prévisions pour 2023, hein, anticipe d'ailleurs un ralentissement généralisé de l'économie mondiale, en partie dû à ses politiques de hausse des taux d'intérêt. Et comme il semble que le pire reste à venir en 2023, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais 2023 risque pour de nombreux pays d'avoir le goût de la récession.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ?
Alors, face à une inflation donc, qui n'est ni monétaire ni causée par la demande, hein, mais, comme je l'ai dit, le résultat pour l'essentiel de la hausse des prix de l'énergie, des pénuries engendrées par la rupture des chaînes d'approvisionnement suite à la crise sanitaire, mais aussi, je n'ai pas mentionné, qu'il produit de la volonté de certaines branches d'activité de profiter de la situation pour augmenter leurs profits. Les réponses qui sont jusqu'à présent apportées, qui ont été jusqu'à présent apportées, sont inopérantes, voire même contre-productives. L'inflation actuelle, dans un contexte en plus d'affaiblissement important du pouvoir de négociation des travailleurs, entraîne une baisse du pouvoir d'achat de ces travailleurs. Et donc, ce qui est important, ça va être d'essayer de maintenir le pouvoir d'achat. Et pour le maintenir, eh bien, la solution qui s'impose, c'est l'indexation des salaires. Parce que ce qui est en jeu ici, c'est la répartition des revenus de l'économie entre la rémunération du capital et celle du travail. Si les prix progressent plus vite que les revenus du travail, comme c'est le cas actuellement, la répartition des revenus va se déformer en faveur des revenus du capital. Et donc, lutter contre l'inflation en empêchant toute progression des salaires, comme le fait le gouvernement actuel, ne fait donc que valider cette perte de revenus réels des travailleurs, tout en protégeant les revenus du capital. Et l'indexation permettrait de limiter cette évolution, donc de réduire les effets néfastes de l'inflation.
Mais alors, cette indexation des salaires, est-ce qu'elle n'est pas susceptible à son tour de renforcer l'inflation, Eric ?
Alors, c'est en effet l'argument mis en avant par Emmanuel Macron et également par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Augmenter les salaires entraînerait une spirale prix-salaire, comme on dit, selon laquelle la hausse des salaires alimenterait la hausse des prix. Une étude récente du FMI, là encore, montre, à partir d'une analyse historique remontant jusqu'aux années 60, qu'une accélération des salaires nominaux n'est pas le signe qu'une spirale prix-salaire va s'installer, a fortiori dans une période où, comme aujourd'hui, les salaires réels ont considérablement diminué. Dans ce contexte, la spirale prix-salaire, qui est invalidée par l'histoire moderne, apparaît plutôt comme une sorte de chiffon rouge que l'on agite afin de conserver une répartition des revenus favorable au capital.
Alors, est-ce que d'autres mesures seraient nécessaires ?
Oui, alors en plus de l'indexation, on voit que dans les périodes de crise, les mécanismes de marché, d'ajustement par les prix, s'avèrent assez inopérants. Et donc, dans de telles circonstances, le contrôle stratégique des prix est un outil qui me semble adéquat pour empêcher l'inflation de s'emballer sans faire s'effondrer l'économie. C'est en plus un bon moyen de limiter les bénéfices extraordinaires, et j'ajouterais indus, qui ont été réalisés par les sociétés d'énergie ou de transport maritime, par exemple, tout en soutenant le pouvoir d'achat des ménages. Aujourd'hui, en fait, l'alternative, c'est est-ce qu'on continue de tolérer l'accroissement, l'explosion des profits, qui fait grimper les prix d'ailleurs, ou est-ce que on mise sur des contrôles de prix soigneusement sélectionnés ? Il est bien évidemment pas, l'objectif n'est pas de contrôler tous les prix, mais de contrôler certains prix qui sont stratégiques. On doit aussi envisager le contrôle des prix comme une réponse politique plus large aux énormes défis macroéconomiques liés à la bifurcation de nos économies, plutôt que de prétendre, comme on le fait actuellement, comme le gouvernement le fait actuellement, qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'attendre ou que la mise en place de politiques d'austérité. En fait, en refusant et l'indexation des salaires sur les prix et le contrôle stratégique des prix, bien la politique qui est actuellement menée doit être vue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une politique de classe au service du capital et de la protection de l'épargne des plus aisés, alors que pourtant l'alternative existe et elle a montré en plus son efficacité dans l'histoire moderne.
Merci beaucoup Eric Baer pour cette chronique des Clés de l'écho à réécouter sur laclédesondes.fr et sur la plateforme Spectre. On te dit à bientôt, dans un mois à peu près, ou plutôt début janvier pour une prochaine chronique des Clés de l'écho. Merci Eric.
Merci. Spectre.